Scandale pour les Juifs. Le Messie crucifié scandalisera les Juifs, mais avant cela, nous voyons ce matin ce Messie scandalisé lui-même par les Juifs. Le scandale provoque la colère. Il serait scandaleux qu'un scandale ne provoque rien. C'est bien le cas de ce qui s'est passé dans l'Église pendant tant de temps, ces scandales des abus commis par des pasteurs qui, bien trop longtemps, ne provoquèrent ainsi le scandale de personne. Malheureusement, cela n'existe pas que dans l'Église. Dans ce contexte, cette colère nous soulage. Cela peut nous faire du bien de voir Jésus scandalisé. Il n'est pas normal de laisser faire une injustice sans réagir, mais bien vite cependant, cette colère nous met mal à l'aise, parce que notre indignation et notre emportement sont différents de ce que vit le Christ. Tout d'abord, en effet, je ne peux affronter l'injustice sans ressentir en moi cette part qui toujours se reconnaît complice de quelque chose. Ma violence se déchaîne d'autant plus que je ne sais pas intérieurement faire face à ce que je dénonce extérieurement. Par conséquent, ce Jésus en colère peut aussi nous faire peur. S'il se met à faire de l'ordre par le vide, je sais qu'il ne va plus rester grand monde. Comment le vouloir doux et humble de cœur avec moi, mais féroce avec les autres ? Jésus ici se scandalise des trafics qui se déroulent dans le temple. Et les Judéens se scandalisent de son scandale qui provoque le désordre dans leurs affaires. Pour qui se prend-il ? De quelle autorité intervient-il ? Pour le dire vite, le temple est son chez lui, et même le temple, c'est lui. La maison du Père fait son tourment depuis sa première Pâque adulte à 12 ans. Il comprit à ce moment-là qu'il se devait d'être aux affaires de son Père. Dans l'éveil de sa conscience, l'évidence de son lien avec le Père l'avait saisi. Il devait le servir, habiter son intention, sa présence, et il comprit ensuite à mesure qu'il était lui-même cette présence offerte aux hommes. Or, depuis cette unité, depuis cette intimité mystérieuse de Jésus avec le Père, la tendre et intarissable source de toute vie et de toute existence, depuis cette intimité, ce qui se passe dans le temple le scandalise. En effet, les affaires du Père ne sont pas ce commerce, ces trafics, ces échanges. Car là où chacun vend et achète, le pauvre qui n'a rien, pour ainsi dire, n'existe plus. Le Père n'existe donc plus, puisque le Père n'a rien. Dieu est, il existe simplement, et ne sait rien faire d'autre que donner, se donner. Dans son expérience filiale, Jésus perçoit cette générosité sans limite, incompressible et incompréhensible. La maison du Père est celle de la gratitude, de la stupeur reconnaissante devant sa gratuité absolue. C'est précisément cela qu'il veut manifester aux hommes, le don et le pardon. Sa mission est de nous faire entrer dans sa gratitude, son action de grâce, son Eucharistie, en nous introduisant dans sa propre relation au Père, comme on entre chez quelqu'un. Mais faisons un pas de plus. Sa mission ne s'arrête pas à nous montrer la surabondance du Père pour que nous sachions la célébrer seulement. Il veut faire plus encore. Il veut la libérer en nous. Jésus a pour mission de libérer dans l'homme la gratuité divine, sa libéralité, sa générosité. Autrement dit, ce qu'il fait en renversant les comptoirs et en jetant à terre l'argent, Jésus a pour mission de le faire dans nos cœurs à chacun. Ainsi, ce passage qui mentionne deux fois la Pâque et annonce sa mort et sa résurrection se termine sur ces mots. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Il savait ce qu'il y avait en eux. Il s'en méfiait. Mais là encore, sa méfiance n'est pas comme la nôtre, car nous jugeons les intentions des autres de l'extérieur. Jésus perçoit, lui, notre intérieur, parce qu'il se tient au plus profond, là où nous n'avons pas accès nous-mêmes. De là, il constate notre peu de fiabilité, c'est-à-dire nos peurs, nos convoitises, toutes nos stratégies pour enfermer la vie. Mais il perçoit tout cela depuis ce point d'innocence et d'amour qu'il habite depuis toute éternité, depuis son unité avec le Père, précisément ce qu'il veut libérer en nous. Jésus est le Fils éternel du Père qui se tient au cœur de notre cœur et qui se fait homme pour nous rencontrer et nous rejoindre de l'extérieur, comme pour faire un immense courant d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Nous y voilà, un violent courant d'air, comme celui de la Pentecôte qui surprit les apôtres. Voilà la violence de ce jour, la violence de l'amour. Son souffle qui vient renouveler l'air vicié, mettre le désordre dans la paperasse de nos petites affaires, faire claquer les portes de nos armoires bien rangées. L'amour doit affronter l'ordre établi de nos trafics, l'équilibre figé de nos commerces intérieurs. Il provoque un désordre sans nom dans notre quotidien savamment maîtrisé, où le petit, la surprise et la vie n'ont plus le droit de citer. Il paraît révolutionnaire car c'est bien un désordre qu'il doit d'abord provoquer pour établir ensuite le sien. Folie pour les sages, scandale pour les pieux. Il ne conserve rien de nos marchandages, argusies, calculs et revendications. Ce n'est plus l'argent qui doit circuler, mais le grand souffle de l'amour qui renouvelle tout dans l'alliance éternelle de Dieu. Le temple, cette maison de prière, donc, ne représente pas que Jésus lui-même. Ce temple qu'est son corps, crucifié, au cœur percé par la lance, temple au voile déchiré, Vendredi Saint. Ce temple représente aussi notre propre corps, que le vent de l'Esprit investit, notre existence concrète qui ne suit plus une loi dictée de l'extérieur. Notre corps est ce temple habité par le souffle de l'Esprit, cette présence irradiante de l'amour mutuel du Père et du Fils, la générosité créatrice qui suscite et soutient tout le créé avec tendresse.